Vous écoutez
RMC. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous et quel plaisir de vous retrouver chaque jour dans Estelle Midi, midi 15h, RMC Story. On est très content de vous avoir au 3216, bien sûr, et également sur l'application RMC, rubrique Direct Studio. On lit tous vos messages dans l'émission, enfin c'est Rémi Barret qui les lit. Salut Rémi.
Salut Estelle, bonjour à tous.
On est aujourd'hui avec Lumière Lapré, militante associative. Salut Lumière.
Bonjour.
Je m'appelle Lumière, je rappelle.
J'ai dit Lumière.
Lou.
J'ai dit quoi?
Lou.
Eh ben, ah, Lumière, mais oui, mais il y a tellement de manières de le prononcer. Lumière Lapré, avec nous également Yael Mellul, présidente de l'association Famille Libre et ancienne avocate. Bonjour,
bonjour. Yael.
Et puis Fred Hermel, notre journaliste maison.
Bonjour Fred.
Ouais, ça me va. Ah, écoutez, je suis contente. Au sommaire, aujourd'hui dans Estelle Midi, le climat de tension contre les services publics. La France est-elle devenue une poudrière? On attend vos réactions au 32-16. On parlera à 13h de ce village qui décide de rebaptiser toutes ses rues avec des noms de stars. Johnny Hallyday, Bob Marley, Céline Dion, Stromae. Est-ce que c'est ridicule ou est-ce que c'est génial? Est-ce que vous aimeriez, tiens, vivre dans une rue qui porte le nom d'une star? Dites-nous tout au 32-16. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h45 même, la minute conso avec Paul Lassen. Et sachez que prendre l'avion pour pas cher, eh bien c'est fini. Le low cost est de moins en moins low cost. À 14h, la première ministre Elisabeth Borne contre le passage aux 110 km/h sur autoroute au lieu de 130, alors que 63% des Français y sont favorables. Est-ce que c'est une erreur? Et puis on terminera avec les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
RMC Estelle Midi.
Midi 6 sur RMC et on va tout de suite démarrer avec l'actualité du jour, et c'est bien sûr le meurtre d'un agent du fisc dans l'exercice de ses fonctions dans le Nord. Un fait divers sordide qui illustre la montée de la violence contre les services publics en France. La tension est palpable dans plusieurs secteurs, Rémi.
Oui, violence à l'égard des agents des services publics ou des représentants de l'État en forte hausse. C'est ce que nous disent les derniers chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur. On y apprend notamment que policiers nationaux et gendarmes, c'est pas vraiment étonnant, hein, représentent la moitié des victimes enregistrées, loin devant les policiers municipaux. 8% d'entre eux déclarent avoir été victimes de violences. Les agents des transports, 5%. Les surveillants pénitentiaires, 4%. Les enseignants, 4% également. Vous avez bien entendu, hein, les agents pénitentiaires, les surveillants pénitentiaires sont autant agressés que les enseignants. Enfin, ça parle beaucoup. Ou encore les intervenants sociaux, 4% également déclarent avoir été victimes de violences. Et alors que le 104e congrès des maires se tient en ce moment à Paris, les données du ministère révèlent une explosion des incivilités et ou des agressions visant nos élus. Entre le 1er janvier et le 31 octobre 2022, 1835 procédures judiciaires pour atteindre aux élus ont été enregistrés. Là encore, je précise qu'il s'agit de procédures judiciaires. Donc, oui, ça ne recense pas les faits où il y a des insultes, parfois des menaces, et puis le maire ne donne pas suite. En 2021, sur les 11 premiers mois de l'année, 1186 élus avaient été victimes de violences. Donc, on voit que c'est une forte progression, des chiffres qui confirment d'ailleurs une étude du CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po, dévoilé avant-hier. Selon elle, en 2022, 39% des 3700 maires interrogés déclarent avoir reçu des menaces verbales ou écrites. En 2020, le taux était inférieur de 11 points. Oui. La hausse est très proche pour les incivilités, impolitesses ou agressions, dont 63% des maires interrogés disent avoir été victimes.
Alors, climat de tension dans les services publics, la France est-elle devenue une poudrière, Yael Mellul?
Bah, plus qu'une poudrière, je crois que là, vous venez de le rappeler avec ces chiffres qui sont absolument effrayants, on est avec une espèce de confrontation au réel. Et le réel, c'est quoi? Le réel, c'est une énorme colère des Français, en réalité, qui se manifeste par ce qu'on appelle des incivilités. Mais les incivilités, c'est quoi? C'est des menaces, c'est des injures, c'est des agressions physiques également. Mais cette colère des Français, il faut aussi la comprendre. Elle veut dire quoi, cette colère? On a demandé aux Français d'être dans une espèce de posture de résilience. Sauf que les Français, depuis plusieurs années, se confronter à des attentats, à la révolte des Gilets jaunes, au Covid, aujourd'hui à la guerre en Ukraine, qui a des répercussions sur la
Le Covid et la guerre en Ukraine, c'est toute l'Europe.
Oui,
mais la France, on subit moins l'inflation que les autres.
Oui, mais si vous voulez, les Français aujourd'hui en ont un petit peu marre aussi qu'on leur dise en Europe c'est pire qu'ici. Oui. Aujourd'hui, les Français, c'est leur situation en France qui les importe et ce qui aujourd'hui, ce qu'ils sont obligés de supporter, la pénurie des médicaments, la pénurie des médecins, la pénurie des hôpitaux. Aujourd'hui, on nous parle de pénurie d'antibiotiques. Aujourd'hui, quand on va faire nos courses dans les supermarchés, on est confronté à une explosion déjà des prix. On n'est pas encore rentré dans une inflation à deux chiffres. Oui, mais j'ai envie de vous dire, peu importe. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la situation des Français qui expriment leur colère comme ça. Alors, ils l'expriment de manière absolument dramatique.
Bah, c'est ça.
Et de manière
surtout pour les gens qui sont victimes, ouais.
Bah oui, absolument.
Et de manière assez, malheureusement, spectaculaire. Aujourd'hui, on le voit avec le meurtre de ce pauvre homme, du fisc. Donc, on voit aussi la colère des Français par rapport à leur situation économique. Qu'est-ce qu'on a à leur apporter aujourd'hui aux Français? Qu'est-ce qu'on leur apporte comme réponse?
On est le pays le plus redistributif du monde et les services publics, ils sont là pour redistribuer. Donc
mais les services publics aujourd'hui,
quand vous en prenez un agent de Pôle Emploi, c'est inadmissible.
Oui, absolument.
Ou un agent de la CAF, c'est incroyable.
Oui, absolument, c'est inadmissible. Les agents de Pôle Emploi subissent eux aussi de grosses agressions.
C'est dramatique.
C'est absolument dramatique. Je suis absolument d'accord. Mais il faut aussi se mettre dans la position de la société aujourd'hui qui est en situation, me semble-t-il, de dépression collective, en fait.
Vous y réagir.
Oui, Yaël, je suis pas d'accord avec toi parce que tu as l'air de justifier ce qui se passe en fait en disant oui, ben il y a de la violence, on frappe, on tue des représentants à différents niveaux de l'État, des services publics, des gens qui sont là au service de la population. Mais toi, tu l'expliques par oui, mais faut comprendre, il y a une colère dans le pays. Je suis désolé, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, qui ont des problèmes et ils vont pas taper les responsables du service public pour autant. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec.
Surtout quand tu vas dans les services publics, c'est qu'a priori tu en bénéficies.
Bien sûr, quoi. Voilà. Donc, et pour avoir de la famille à Pôle Emploi, je peux vous dire que ça, c'est tous les jours. Hein. Les gens qui sont à l'accueil à Pôle Emploi, c'est un vrai sacerdoce. Vous savez que les gens à Pôle Emploi, ils ont une alarme à l'accueil. Il y a une alarme sous le bureau d'accueil. Parce que dès que la conversation commence à déraper, eh ben l'agent qui accueille les demandeurs d'emploi appuie, et puis quelqu'un vient pour le soutenir, etc., pour éviter la violence. Et il y a de la violence. Et régulièrement, les gens de Pôle Emploi portent plainte pour agression au sein des. Je termine. Non, mais le problème, c'est que Rémi citait le chiffre des profs agressés. Oui. Et tout part de là. Regardez, alors je vais pas dire c'était mieux avant, mais moi quand j'étais petit,
si t'es adulte,
je suis adulte de dire.
Et en plus, tu
un prof, c'était sacré. On n'osait pas remettre en cause la parole du prof. On acceptait son autorité. On avait même peur du prof. Et nos parents acceptaient l'autorité du prof. Aujourd'hui, les gamins disent n'importe quoi au prof.
Mais donc, c'est pas la même chose. Là, en fait, on est sur les services publics et c'est surtout effectivement la CAF, Pôle Emploi.
Oui, mais si tu respectes pas ton prof, si tu respectes pas ton prof,
il y a une notion d'argent à chaque fois.
Ben oui, mais si tu respectes pas ton prof qui est l'autorité suprême. Quand t'es petit, l'autorité suprême, c'est pas l'agent du fisc, c'est le professeur. Et donc, si tu ne le respectes pas, si tu n'as pas peur de lui, si tu ne respectes pas son autorité, et ben quand tu grandis, tout représentant de l'État, ben tu le considères comme quelqu'un qu'on peut humilier.
Lumière, l'après, est-ce que finalement, toutes ces violences, ça met notre système en danger, tout simplement?
Je pense que notre système est en danger. Je rejoins Yaël dans la mesure où je pense que cette colère, elle se porte sur les représentants du système parce qu'en fait, elle est dirigée contre le système.
Le système, il est redistributif.
Je suis d'accord, mais sauf que et là aussi, je suis encore assez d'accord avec Yaël. Savoir qu'en Allemagne c'est pire, ça me fait pas remplir mon frigo, quoi. Donc c'est terrible pour les Allemands ou les autres Européens qui sont dans une situation encore plus difficile, mais ça n'empêche qu'on va pas faire les Jeux Olympiques de l'oppression et de la pauvreté. Pour nous aussi, c'est compliqué.
De l'oppression en France.
Non, mais la compète, c'est ce que je veux dire. Ça sert à rien de mettre les gens en compétition. D'accord. Sur qui est le plus pauvre.
Sur la pauvreté.
C'est ce que je veux dire. Ensuite, pour moi, cette colère, elle va contre un système et je voudrais prendre une demi-seconde pour redire à quel point, malgré les cracks un peu de partout, ça se passe bien, en fait. Et ça, c'est quand même délirant parce que...
Ça se passe bien pour qui?
Bah, ça se passe bien. Les services publics se passent bien alors qu'il y a une pénurie de soignants. On n'arrive plus à recruter de soignants aujourd'hui. Les profs, ils en sont à 37 élèves par classe. Les policiers, il en manque partout.
Et malgré ça...
Non, ce que je veux dire, c'est quand même déjà que moi, je voudrais quand même rendre hommage aux fonctionnaires. Aujourd'hui, il y en a sans doute qui nous écoutent et de dire c'est quand même la digue contre qui nous qui tient la baraque aujourd'hui. Donc un grand merci à vous qui nous écoutez. Et ensuite, pour moi, tout ça, c'est un symptôme. Et la cause de cette maladie, c'est peut-être une crise de l'autorité. Moi, je veux bien en débattre. Mais c'est aussi, et les profs vous le diront le premier, quand j'ai 38 gamins devant moi, je ne peux pas me faire respecter. Ça n'est pas possible. Donc, les responsables...
Parce qu'il y a moins de gens qui veulent être profs.
Mais le responsable...
Justement, parce qu'il n'y a pas de respect. Voilà.
C'est que t'es mal payé.
Oui, voilà, c'est ça.
T'es considéré, t'es mal payé.
Exactement.
Le pire, c'est la mauvaise considération.
Exactement. Exactement. C'est la mauvaise considération. Et d'ailleurs, quand vous demandez, la plupart des fonctionnaires, ils sont là par amour de leur métier. Donc si vous leur dites, est-ce que vous préférez être payé plus ou avoir des meilleures conditions de travail, ils vous diront des meilleures conditions de travail. Je voudrais pouvoir voir mes malades et discuter avec eux plutôt que juste de leur faire une prise de sang et me casser. Pouvoir aider vraiment les gens à progresser en salle de cours, etc. Donc pour moi, les responsables, ils sont aussi les responsables politiques qui structurellement sous-financent les services publics.
Vous avez quelques chiffres, Rémi?
Juste un dernier chiffre. On parlait des services publics qui fonctionnent bien. Tu disais, bon, je comprends ce que tu voulais dire. C'est-à-dire qu'il y a manque de moyens, manque d'effectifs.
Et malgré tout,
ça tient, mais il y a quand même l'avis des Français. Et un sondage IFOP là, qui date d'il y a quelques jours, il y a quand même 61% des Français qui jugent que les services publics fonctionnent mal ou très mal dans ce pays.
Vous avez déjà essayé d'avoir quelqu'un des impôts au téléphone? Et ça vous a pris combien de temps?
Ah non, c'est l'enfer. Je dis pas le contraire, hein, mais je dis.
Et
aussi,
surtout quand vous êtes dans votre bon droit, qu'on vous réclame des trucs en fait, qui ne sont absolument pas avérés. Et donc en fait, ça rend fou.
Bien sûr.
Même
mais je suis d'accord.
C'est vrai que parfois on est
l'URSSAF, moi je suis auto-entrepreneur, donc je peux vous le dire.
La RAM, non, n'en parlons pas.
C'est dingue.
Non, mais voilà. Donc en fait, les services publics, ils ne fonctionnent pas très bien en France. Et non, ça ne justifie aucune violence, rien. C'est pas ça. Mais c'est qu'aujourd'hui, ils sont débordés. Ils sont débordés parce qu'il y a en plus de plus en plus de demandes en France. On est avec Philippe qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Et Philippe, vous vouliez témoigner, vous, sur ce sujet des services publics, justement.
Alors, au niveau des services, des impôts, surtout.
Oui. Allez-y.
Vu mon expérience, bon, j'ai subi dans le passé et actuellement plusieurs contrôles fiscaux.
Oui.
Bien entendu, je trouve cet événement dramatique, mais ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout qu'on arrive à un moment à de telles situations. Puisque la majorité des contrôles fiscaux se passent très bien. 99% des contrôleurs sont bien, mais parmi les contrôleurs, il y a certains petits tyrans qui se croient tout permis, qui se croient... dans mon exemple, on m'a bloqué des comptes société pendant 6 mois pour me les rendre après. Et pendant 6 mois, ils vont mettre votre compte à zéro.
D'accord. Donc vous n'avez plus rien, quoi.
Vous pouvez rien faire. Il faut se justifier. Une fois qu'il se justifie, il débloque, bien entendu, mais pendant 6 mois, il nous laisse dans la mouise.
C'est ça.
Exactement. Et j'ai eu certaines expériences où certains contrôleurs, dès le début du contrôle, me disaient, moi, mon but, c'est de vous amener au pénal.
Ah oui. Oui, évidemment, c'est pas admissible. Tout comme bien sûr la violence n'est pas admissible. Mais ce que vous dites, Philippe, c'est qu'en fait ça peut mal se passer. C'est-à-dire que vous vous sentez déconsidéré aussi quand il y a un agent du fisc qui vient vous voir, quoi.
Exactement. Pourquoi? Parce que c'est des tyrans, parce qu'ils sont payés. Faut le savoir, ils sont payés aux chiffres. Hein. Moi, lors d'un contrôle, un contrôleur m'a dit, ça vous dérange pas que je vous rajoute l'IS que vous avez payé en 3 mois parce que ça fera augmenter mon chiffre de cette année. C'était en décembre d'une certaine année. Donc pour eux. Ils sont un peu... pour eux, c'est perdu, chiffon. Oui, c'est perdu.
Oui, après, après, Philippe, ils font... Enfin, c'est malheureux à dire, mais ils font leur boulot. Mais merci en tout cas d'avoir été avec nous sur RMC dans Estelle Midi pour nous raconter votre situation. On sent aussi quand même, Yael Mellul, qu'il y a une acceptation qui est de moins en moins forte à l'impôt de la part des Français. On sent que les Français, ils en ont marre de payer, quoi, tout simplement, quoi.
Ben, ils ont d'autant plus marre de payer que là, il y a encore... Je crois qu'on va en parler tout à l'heure dans le deuxième sujet. Les riches n'ont jamais été aussi riches, en fait. Donc cette espèce de disparité entre la situation des pauvres et la situation des riches qui fait que la colère elle augmente, parce qu'aujourd'hui on en est quand même à des difficultés comme savoir si on va pouvoir se chauffer, savoir si on va pouvoir avoir de l'électricité, savoir si son bébé qui a une bronchiolite va avoir une place à l'hôpital ou si on va devoir partir à des centaines de kilomètres, savoir si on va pouvoir avoir des antibiotiques pour se soigner. Enfin, on en est à savoir si on va pouvoir manger.
On a régressé, en fait.
Voilà. Donc, en fait, la France et subit un déclassement. Mais pour les classes les plus pauvres, pas pour les plus riches.
Et pour la classe moyenne aussi.
Et pour les classes moyennes aussi.
On dit beaucoup qui elles n'ont rien, zéro.
Mais je voudrais juste répondre à ce que tu disais tout à l'heure. Moi, j'ai le plus profond respect et la plus profonde admiration pour les fonctionnaires, encore plus aujourd'hui, qui font un travail extrêmement compliqué dans des circonstances extrêmement difficile, justement parce que les Français sont en colère. Moi, je ne la justifie pas, cette colère. J'essaye de la comprendre pour essayer justement d'apporter des solutions.
Oui, mais quand un gamin et des parents maltraitent.
Oui, mais là, c'est sur les profs. C'est surtout un autre sujet. Là, t'es sur les profs, mais nous, on est vraiment là quand même sur les services publics. Parce qu'en fait, pourquoi c'est les représentants de l'État? Quand t'as un gamin qui parle mal au prof, il se dit pas c'est un représentant de l'État. C'est un gamin qui est mal élevé, etc. Quand tu parles mal à un représentant des impôts ou de la CAF, c'est les représentants de l'État. T'adresses à l'État, en fait. Mm-hmm. Et c'est pas
mais
du tout.
Tu tapes pas sur les bonnes personnes, dans ce cas-là.
Mais c'est pas pareil entre un gamin de 10 ans qui est mal poli et quelqu'un qui va mettre une gifle.
Ça les marque tout de suite.
Mais le problème, c'est que les citoyens, ils vont s'attaquer aux gens qui sont en première ligne. Donc là, en première ligne, par exemple, ça va être les maires.
Exactement.
Voilà. C'est une manière aussi de toucher ceux qui sont complètement déconnectés, qui sont en haut, qui n'ont pas de contact avec cette réalité du terrain. Et de manière, encore une fois, spectaculaire, abominable, ce crime, de cet agent du fisc vient rappeler le réel.
Exactement.
À ceux qui sont en haut. Voilà.
Et puis. Parfois, très rapidement, mais il y a certaines réformes faites par l'État qui peuvent être efficientes, qui peuvent être justes. Mais par exemple, là, je vois, il y a quelques jours encore, il y a des syndicats de Pôle emploi qui ont alerté sur les risques pesant sur la sécurité des agents et dénoncé la multiplication des incidents, craignant que le traitement désormais automatisé n'ait trop perçu. Avant, lorsqu'il y a, ne crée encore plus de tensions. Donc, on voit qu'ils sont en première ligne aussi des réformes de l'État, des changements. Là, on en a parlé hier, des changements des règles d'indemnisation, de la durée. Ces agents-là vont être confrontés à des demandeurs d'emploi qui, parfois, sont très, très énervés.
Absolument. Et justement, on a David qui nous appelle de Haute-Rive, en Haute-Garonne. Il est contrôleur SNCF et il a déjà eu affaire à cette violence, malheureusement. Bonjour, David.
Oui, bonjour à tout le monde. Je connais très bien Fred Armel, que j'écoutais sur AMC, sur l'After, et Estelle aussi, que je regardais sur l'équipe TV. Je suis super enchanté de vous avoir au téléphone.
Et nous aussi, David.
Puis on serait ravis de te rencontrer dans un train.
moi aussi. Alors voilà, donc moi, j'ai 51 ans. Je suis contrôleur sur l'axe Grand Sud, l'axe Bordeaux-Marseille, sur Intercité. Et nous, c'est tous les jours. Tous les jours. Alors nous, on a toutes les classes sociales dans le train. Parce que les gares, elles sont ouvertes. Il y a très peu de gares sur Intercité où il y a des accueils d'embarquement, c'est-à-dire où il y a des filtrages pour que les gens passent avec leurs billets. Mmh. Là, c'est surtout sur le TGV, sur Intercité un peu moins. Et je peux vous dire que tous les jours, c'est soit des agressions verbales, soit c'est des menaces. Soit on va
mais devant tout le monde, c'est-à-dire que les gens sont dans le train devant tout le monde et ils n'hésitent pas à vous menacer.
Mais moi, ce qui m'est arrivé il y a à peine 3 semaines, au départ de Bordeaux, midi 26 exactement, je fais un PV pour une personne qui n'avait pas de billet, qui était en première classe. Ouais. Ça se passe très très bien. Parce que nous, vous savez, donc il y avait une collègue à moi qui était féminine, qui a eu quelques soucis avec lui. Je l'ai remplacé. Donc nous, c'est ce qu'on appelle le relais.
D'accord.
Ça s'est bien passé. Je l'ai
invité
en deuxième classe. Ça s'est très bien passé. Donc aucun drapeau rouge, rien.
D'accord.
Une heure et demie après, donc vers Montauban, la personne se lève. Moi, je passe devant elle. Elle se jette devant moi, puis paf, elle m'étrangle.
Mais non.
Alors là, j'ai pas compris parce que quand il se passe sur un conflit, on peut s'attendre à ce que la personne se lève. Voilà. Mais là, c'est de pire en pire. Là, des fois, même sans les drapeaux rouges, ça peut basculer sur du tout et sur du n'importe quoi. Alors, ce que disait votre journaliste qui est sur le plateau, c'est vrai qu'il y a la colère des gens, des Français en l'occurrence ici. On peut comprendre, mais on peut pas admettre ce qui se passe.
Bien sûr, vous avez raison, David.
Ce que disait Fred Armel. Mais il a tout à fait raison. Moi, sinon, je fais la queue donc à mon grand supermarché et je vais gueuler parce qu'il y a trop la queue. Mais c'est pas la caissière qui est donc fautive.
Mais David, est-ce que vous en tant que contrôleur SNCF, vous voyez une augmentation de cette violence? Est-ce que c'était pareil il y a 3 ans ou est-ce que c'est pire maintenant?
Eh bien, c'est pire parce que, alors, surtout maintenant, parce que l'essence coûte beaucoup plus cher, donc les gens prennent le train, surtout pour les petits parcours. Nous, l'intercité va s'arrêter partout. Vous voyez, donc au départ de Toulouse, on va s'arrêter à, je sais pas, Carcassonne, Narbonne, Béziers, Sète. Et les gens, pour faire des petits parcours, parce qu'ils prennent le train, donc ils prennent pas le billet. Alors, donc ils vont s'asseoir sur des sièges qui sont déjà réservés, donc ça
pose problème. Il y a
d'autres voyageurs qui vont monter, qui vont leur récupérer leur siège. Nous on intervient ça part en live souvent et c'est, donc nous on est assis sur une poudrière tous les contrôleurs, et voyez, moi maintenant je suis en agent test avec la caméra piéton, ça y est, donc il y a les contrôleurs qui commencent à mettre les caméras piétons.
C'est-à-dire que vous avez une caméra sur vous et vous filmez le comportement des clients, enfin des passagers,
Nous on est en test sur Intercité, on l'a, il y en a quelques-uns aussi sur le TGV et quelques-uns aussi sur le TER.
Voilà. D'accord. Enfin, c'est quand même grave d'en arriver là, quoi. Excusez-moi, David. Tant mieux pour vous, parce que ça va vous sécuriser, et tant mieux pour vous si vous subissez moins de violence. Mais en arriver là,
je dirais. Comme les policiers, en fait. Aujourd'hui, c'est comme un policier.
Mais t'es contrôleur, t'es pas policier, quoi.
C'est
pour
ça, c'est ça qui est dingue.
Et bientôt, on va en arriver à faire ça, effectivement, avec les enseignants, avec les mecs de Pôle emploi. Enfin, c'est, il y a quand même un vrai problème de violence. Et finalement, Loumir, est-ce que l'État doit plus protéger ses agents? On sait qu'en ce moment, il y a un vrai problème à Pôle emploi, par exemple. Est-ce qu'il faut mettre un policier à l'entrée des Pôle emploi?
En fait, moi, je suis convaincue que l'État doit mieux protéger ses agents. Pour mieux les protéger, pour moi, c'est pas des mesurettes. Quand il y a un problème, paf, on le couvre. Par exemple, c'est ce qu'on voit chez les profs ou chez les policiers, à qui on dit de plus en plus, s'il y a une bavure ou quoi, on vous couvre parce qu'on sait que vous êtes déjà à bout. Mais ça, c'est pas protéger les gens, en fait. C'est complètement irresponsable. Ce qu'il faut, c'est de la prévention. C'est faire en sorte que les incidents n'arrivent pas. Donc, je sais pas si la solution, ce serait de mettre un policier devant Pôle emploi.
Pour protéger les agents, parce qu'en fait, tu peux pas savoir quand quelqu'un va exploser.
Mais par contre, ce qu'on peut savoir, c'est s'il y a plus d'agents Pôle emploi, et donc il y a une meilleure gestion de chacun des dossiers.
Personne veut faire ce job.
Bien sûr, mais quelque chose qui est assez peu fait, je trouve, et c'est dommage, qui est, je crois, de plus en plus fait en entreprise notamment, c'est de demander l'avis des premiers concernés. Ce serait de faire un sondage auprès des gens qui travaillent chez Pôle emploi pour leur dire concrètement qu'est-ce qui vous protégerait, de quoi vous auriez besoin. Les gens, les concernés sont les mieux placés pour dire ce dont ils ont besoin pour bien faire leur métier.
Alors, vous êtes très nombreux à nous appeler au 3216, à nous écrire également sur l'application RMC. On va poursuivre ce débat juste après la pause. On sera également avec Bruno Cotresse, qui est chercheur CNRS au CVPOF, pour nous expliquer justement toute cette tension auprès des services publics. Et puis Rémi relira la plupart de vos messages qui tombent comme un gravelot, tiens, sur l'application RMC. À tout de suite dans Estelle Midi, juste après cette pause.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, à la radio RMC Story, canal 23 de la TNT. On est ensemble jusqu'à 15h avec toujours Rémi Barré, Loumir Laprès, Yaël Mellul et Fred Hermel. Dans un instant, on continue à se poser cette question. La France est-elle devenue une poudrière? Mais vous le savez, c'est la Coupe du Monde de foot actuellement et le match entre le Maroc et la Croatie. On rejoint Valentin Jamin pour un point score. Valentin.
Bonjour à tous. 73e minute de jeu et 0-0 pour le moment entre le Maroc et les vice-champions du monde croates. La Croatie a eu les meilleures situations, pousse à l'approche du dernier quart d'heure mais ne parvient pas, malgré Luka Modric, le ballon d'or 2018, pour le moment, à ouvrir le score. 0-0, 74e minute entre le Maroc et la Croatie.
Le match Maroc-Croatie est en ce moment en direct et en intégralité sur l'appli RMC avec la radio digitale RMC 100% Coupe du Monde.
Téléchargez l'appli RMC.
Et on va reprendre notre débat sur la tension dans les services publics en France, tension palpable. On se pose la question, la France est-elle devenue une poudrière? Et Rémi, vous avez énormément de messages sur l'application RMC.
Ouais, je ne peux pas tous les lire, mais je vais en lire quelques-uns, notamment celui de Marie sur Direct Studio, qui nous écrit, elle travaille dans le secteur du service public. Elle nous dit, l'énervement des gens vient surtout du langage administratif, des pièces à fournir, des délais de traitement, des multiples interlocuteurs, des numéros de téléphone qui ne répondent pas. Bref, il y a de quoi s'énerver. Rien, ça ne justifie les violences, évidemment, mais on comprend que Marie, elle-même en fait, qui travaille dans le service public, elle comprend certes, parfois, parce qu'elle-même est confrontée à cet administratif délirant parfois, et elle comprend que certains usagers peuvent être complètement énervés. Et Nicolas nous dit, alors lui, il ne va pas par quatre chemins, c'est surtout un non-respect des autorités, un manque d'éducation, un manque de civisme, une justice laxiste qui fait que ce pays devient une zone de non-droit.
C'est pas faux.
Alors, on est avec Bruno Cotterêts, c'est notre invité sur ce débat, chercheur CNRS au CEVIPOF et enseignant à Sciences Po. Bonjour Bruno Cotterêts. Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. On parlait d'une étude il y a quelques minutes qui a été faite justement par le CEVIPOF. Et on y voit bien sûr que les violences à l'égard des agents du service public se multiplient. Vous l'expliquez comment, vous, Bruno Cotterêts?
Alors c'est vrai qu'il y a une véritable tension sur le guichet au service public, dans de nombreux services publics, les soignants, les guichets des différentes administrations, parfois même les policiers, sont de plus en plus exposés à des comportements irrationnels, à des comportements irascibles des usagers. Ça vient d'être souligné d'ailleurs, il y a un état de tension qui est très important. Beaucoup de personnes ont le sentiment que le service qui est rendu n'est pas optimal, les délais de réponse sont trop longs, les numéros de téléphone qui ne répondent jamais. Voilà. Donc, mais on a en toile de fond de tout ça, effectivement, une véritable transformation du rapport à l'autorité. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans en France, des refus d'obtempérer à un contrôle de la police le long de la route, on n'entendait pas ça deux ou trois fois par semaine comme aujourd'hui.
Et donc, il n'y avait pas les chaînes info non plus même.
Voilà, et donc il y a effectivement quelque chose qui est sans aucun doute d'un rapport transformé à l'autorité au cours des dernières décennies. Le rapport à l'autorité verticale dans la société s'est beaucoup transformé, et en particulier dans les plus jeunes générations, où la demande d'une autorité plus horizontale est apparue assez fortement, et où les autorités ont de plus en plus de mal à se faire respecter au titre de l'autorité verticale, on va dire.
Mais Fred Hermel, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de déshumanisation? Parce qu'effectivement, Bruno Cotterêts le disait, mais quand vous appelez un service public,
bien sûr,
on vous met en attente, après c'est pas de la faute des gens au guichet, mais on vous met en attente 15 minutes, puis tout d'un coup, on vous explique un truc qu'on vous a déjà expliqué il y a 3 semaines, mais en fait ça rend fou, quoi. Alors que si vous aviez déjà, si on supprimait aussi ces répondeurs, avec, vous savez, on vous donne des trucs à dire, évidemment la machine ne comprend jamais ce que vous dites. Non, mais c'est affreux, quoi.
C'est affreux, et en même temps, on est l'un des pays où il y a le plus de fonctionnaires. Donc il y a quand même un problème de répartition.
Mais ils sont peut-être mal répartis.
Mais c'est pour ça, un problème de répartition. On le sait très bien dans le cadre de la police, dans le cadre des hôpitaux, etc. On a un personnel administratif pléthorique. Et en même temps, vous savez, c'est peut-être le grand échec, et je l'ai souvent dit ici, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est qu'il voulait moderniser l'État, moderniser la fonction publique en France. Il n'y est pas parvenu. Alors, il y a eu plein d'excuses.
Il y a eu quelques essais, quand même. Il y a eu quelques réformes.
Mais l'administration française, c'est aussi un mammouth, pour plagier ce que disait un ministre de l'Éducation.
Claude Allègre.
Un mammouth qui est très, très difficile de dégraisser, parce qu'en même temps, et on sait, ce sont aussi des secteurs ultra syndicalisés, c'est-à-dire qu'en même temps, les fonctionnaires se plaignent, mais dès qu'on essaie d'apporter une simplification, une évolution, il y a des résistances. Donc c'est pas compliqué pour l'État.
Si la simplification, elle entraîne évidemment des suppressions de postes,
suppression de postes qui ne veut pas dire licenciement. Suppression de postes, ça veut dire des départs en retraite qui ne sont pas renouvelés avec une modernisation. Mais il est clair que l'administration française aujourd'hui n'est pas assez moderne.
Oui. On est avec Karim qui nous appelle de Maison-Alfort dans le Val-de-Marne et qui est chauffeur de bus RATP. Bonjour Karim.
Bonjour.
Ouais, alors chauffeur de bus, c'est compliqué en ce moment.
Ah ouais, c'est compliqué. C'est pas facile. Mais bon, on prend l'habitude, et puis je les comprends en vrai. Je comprends qu'ils craquent. On est tellement... En fait, il y a aussi un rapport au consentement à l'impôt. On a l'impression d'être taxé de tous les côtés. On paye de l'impôt, on paye ceci, on paye cela. Et puis on n'a pas un service public optimal. On veut aller à l'hôpital, on reste 3 heures. On veut prendre le bus, on en attend 3. Et en plus, ils sont blindés, on n'a pas ce qu'il faut. Le matériel est horrible. L'école, ça va pas, n'en parlons pas. Il y a rien qui va. Et puis quand on a un problème avec la police, on va porter plainte, mais il faut d'abord aller sur Internet, puis après aller voir l'OPJ. Puis en plus, quand on l'a vu, il faut aller après attendre la justice. C'est de la folie. Et donc les gens craquent. Je suis pas d'accord avec la violence, mais les gens craquent.
Surtout, vous êtes chauffeur de bus, donc vous devez avoir affaire à cette violence montante, Karim.
Je prends pas le bus, comme ça, c'est réglé. Je le conduis, mais je pourrais pas le prendre. Pour moi, c'est insupportable. Mais même moi, en tant que chauffeur, quand je les vois comme ça, je me dis, mais comment ils font? Réellement, je me demande comment ils font.
Ouais.
Moi, je prendrais pas le bus.
Mais c'est vrai qu'il y a une acceptation. Et parfois, moi, je vois quand je prends le métro, mais les gens, ils sont serrés comme c'est pas possible. Et vous dites, mais en fait, mais on accepte quand même des trucs.
On n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix. C'est ça le problème, en fait.
Après, encore une fois,
on n'a juste pas le choix. C'est qu'on est bien obligé d'aller au boulot. On fait comment ? Je veux dire, quand on voit les images des bus, des métros, des RER, ben oui, effectivement, on se dit, mais comment ils font ? On dirait même un chauffeur de bus qui subit lui-même cette oppression
ne prend plus le bus.
Ne pourrait pas être à leur place. Ouais. C'est dire l'état de souffrance dans lequel se trouvent ces gens. C'est pour ça, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, Fred, qu'on peut comprendre. Voilà, qu'on peut comprendre leurs inquiétudes, qu'on peut comprendre leur souffrance mentale. C'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de souffrance mentale. Et d'ailleurs, la santé mentale en France n'a jamais été aussi mal.
Enfin, ça fait quand même des années qu'on est les principaux consommateurs d'antidépresseurs en Europe.
Oui, mais là, la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les services psychiatriques et pédopsychiatriques, qui tirent, qui appellent un sursaut parce que la situation est extrêmement alarmante.
Merci en tout cas Karim pour votre témoignage. Merci d'avoir été dans Estelle Midi. Vous avez d'autres messages Rémi ?
Oui, j'ai beaucoup de messages, notamment celui de Gégé qui nous dit, Géraldine, qui nous dit sur Direct Studio, vous inversez les rôles, aucune frustration ne justifie la violence.
Oui mais ça, elle a raison. Et on le dit, on n'arrête pas de le dire.
On n'arrête pas de le dire, mais c'est bien de le redire encore une fois. En tout cas, tiens à le dire Géraldine, par définition un adulte se doit d'être responsable, aucune compréhension, que des comportements immatures, indignes d'un adulte. Voilà ce qu'il nous dit.
Karim disait quelque chose d'intéressant, c'est la non-acceptation des Français à l'impôt. Et ça, c'est quand même, c'est effectivement primordial, Loumir Laprès, parce qu'effectivement, on a l'impression que les Français, ils en ont marre de payer pour des trucs qui fonctionnent pas. Et malheureusement, ce sont ces agents de services publics qui en payent les conséquences. Alors que la plupart, les 99%, ils sont adorables et ils font bien ce qu'ils peuvent, quoi.
Tout à fait. Je pense que cette notion de consentement à l'impôt, elle est clé. Parce que, pour moi, il y a deux types de gens. Il y a des gens qui ne veulent pas participer à l'effort collectif et à la solidarité. Pour moi, ces personnes-là sont problématiques parce qu'à partir du moment où on bénéficie de quelque chose qui vient du pot commun, on ne peut pas refuser de mettre à la patte. Oui. Bon. Après, il y a un autre sujet qui est la frustration, voire qui devient de plus en plus le refus, de payer tout en ayant le sentiment de ne pas, entre guillemets, avoir la monnaie de sa pièce derrière. Donc, c'est-à-dire, exactement ce que disait Karim, un service public dégradé. Oui. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que, et c'est le cas, je parle en connaissance de cause dans les zones rurales notamment, où nous on paye, mais du fait de la géographie et de la faible densité, on a très peu de services publics. On n'a pas de service public de la mobilité, on n'a plus de médecins. Etc. Donc voilà, je pense que les gens ne sont pas anti-impôts en France quand même. Il faut se rappeler, on paye beaucoup plus d'impôts que les habitants du monde entier pour un service qui fonctionne quand même mieux. Je voudrais revenir sur le métro. Je prends le métro tous les jours. Quand j'habitais aux États-Unis, je prenais le métro, il y en avait un tous les 25 minutes et ça me coûtait 4,50 € le trajet.
Si on était habitué à en avoir un tous les 25 minutes, il n'y aurait pas de problème.
On serait content.
Quand tu es habitué à en avoir un toutes les 2 minutes et après un toutes les 10, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose. Bruno Cotterès, quelles sont les solutions pour l'État pour améliorer tout ça ? Parce qu'on a l'impression que l'État est un peu dans une impasse. Hein.
Effectivement, on a le sentiment un peu d'une impasse au vu de toutes les questions qu'on se pose et qui posent fondamentalement le problème de l'efficacité du service public. Il y a une vraie variable culturelle pratiquement qu'il faudrait mettre en œuvre, c'est-à-dire comment se fait-il que nous nous sommes habitués très souvent à ce que des infrastructures qui ont coûté aux contribuables parfois ne sont pas bien entretenues, dysfonctionnent, ne sont pas en permanence en état de fonctionner. Effectivement, pour reprendre notre discussion, c'est pas dans l'absolu le refus de l'impôt, c'est relatif, c'est effectivement relativement aux services rendus et relativement aux dysfonctionnements que nous constatons régulièrement dans des infrastructures aussi simples que les escaliers mécaniques qui dans les gares souvent dysfonctionnent, les ascenseurs qui souvent sont sales, voire sans chlorine dans de très nombreux ensembles de gares. Et nous ne comprenons pas les uns et les autres pourquoi nous payons des taxes et ça ne marche pas. Il y a d'autres pays dans le monde où la question de l'efficacité, de la capacité à réparer très vite, instantanément, est le point cardinal de l'action publique.
C'est sûr qu'au Japon, ça se passe pas comme ça.
Je pense que c'est ça qu'il faut aller, c'est-à-dire pousser dans le sens d'une exigence d'efficacité, de réparation rapide, pour ne pas générer ce sentiment, cette tension sur pourquoi je suis taxé, pourquoi je paye beaucoup d'impôts et les choses ne marchent pas toujours.
Merci beaucoup Bruno Cotes d'avoir été notre invité dans Estelle Midi. D'autres messages, Rémi?
Oui, il y a un message justement qui nous parvient à l'instant de Damien sur Direct Studio qui illustre bien ce que vient de nous dire Bruno Cotes. Il nous dit, Damien, si au restaurant j'ai la même prestation entre un menu à 20 euros et un menu à 50 euros, je vais me plaindre. Eh bien les services publics, c'est pareil. Avant je payais 20 euros de taxes. Et maintenant, c'est 50 et le service est de pire en pire. Donc, se plaindre est justifié. Dommage pour les agents en première ligne. Mais dans un restaurant, ce serait pareil. Ce serait le serveur qui se prendrait la plainte.
Alors, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. La France est-elle devenue une poudrière? Et la réponse est massive.
C'est rare qu'on ait des scores aussi massifs. C'est oui, la France est une poudrière pour 93% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Oui, c'est pas un score très démocratique,
non,
tout ça.
Non.
Mais, en tout cas, voilà, vous êtes une majorité à penser que effectivement, la France va mal. Dans un instant, un truc qui va bien, ce sont les taxis volants. Alors, on pensait que ça allait être pour 2050. Eh ben non, c'est pour maintenant. 2024, vous allez avoir des taxis volants qui vont voler au-dessus de Paris. C'est pas une blague, Anthony Morel vient de nous en parler dans un instant dans Estelle Midi, à tout de suite.
RMC, midi 14h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Midi 48 dans Estelle Midi, c'est l'heure d'accueillir Anthony Morel, on n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi,
on n'arrête pas le progrès.
Et Anthony, alors que se tient en ce moment le Salon des maires, on va s'intéresser aux villes du futur. Il va falloir s'habituer à voir circuler des véhicules assez étonnants, par exemple des taxis volants. Alors, vous nous en avez déjà parlé en nous disant c'est lointain, mais apparemment non, c'est pour 2024, c'est pour maintenant.
Pour les Jeux Olympiques de Paris, en fait, on va voir circuler au-dessus de Paris des Volocity, c'est le nom de cet appareil. Il a réalisé son premier vol d'essai en conditions réelles, c'était il y a quelques jours, du côté de Pontoise. Non, on l'a pas vu, il fallait bien regarder. C'est à Pontoise, en fait, ils testent ça dans les conditions réelles, avant de pouvoir tester ça réellement au-dessus de Paris. Alors, quand je dis taxi volant, vous allez le voir, pour ceux qui nous regardent à la télé, je vais décrire pour tous ceux qui nous écoutent, parce qu'on imagine le taxi de Bruce Willis dans le cinquième élément, vous savez, la petite voiture jaune qui vole. C'est pas exactement ça. En fait, c'est plus un gros drone, en fait, qui peut accueillir 2 à 4 passagers maximum.
C'est un hélico.
Alors, c'est pas un hélico, parce que c'est beaucoup plus petit qu'un hélicoptère. C'est complètement électrique, c'est silencieux. Et surtout, surtout, demain, ce sera complètement autonome. C'est-à-dire, est-ce que vous serez prêt? Vous montez via une application. Vous montez. Il n'y a pas de pilote. Au début, il y en aura un, mais à terme, il n'y en aura plus du tout.
Mais on monte à quel
distance,
drone?
Alors, vous montez à quelle distance? Vous montez, comment ça, à quelle distance?
À quelle hauteur, je veux dire.
Ah, d'accord, je comprenais pas. Vous pouvez monter jusqu'à 300 mètres de
haut.
Attendez. Ça, vous n'êtes pas prêt. Ça, il y a un seuil psychologique.
2 mètres, 3 mètres max.
Mais encore.
Le métro autonome, ça va, il n'y a pas de souci.
Non, mais déjà, c'est
la voiture autonome, ça va. Mais le
ça va déjà pas du tout.
Le petit drone autonome, c'est pas possible.
Non, mais le métro autonome, il y a des rails, tu vois ce que je veux dire.
Les règles de sécurité sont exactement les mêmes que celles d'un avion, d'un Boeing ou d'un Airbus. Donc vous n'avez pas peur quand vous montez dans un avion. Donc ce sera exactement la même chose.
Il y a un copilote, un copilote.
Quasiment tout est automatisé dans un avion.
Oui, mais c'est pas grave.
Il y a un truc que je comprends pas. C'est comme un taxi. C'est-à-dire que j'appelle mon taxi volant et il se met dans ma rue.
En fait, ça passera via une application. Non, alors en réalité, ça passera par des vertiports. En fait, il y aura des petits aéroports spécifiques qui seront conçus. Il va falloir penser à des infrastructures. Typiquement, au début, ce sera pour relier un aéroport et un centre-ville. Donc, il y aura un vertiport au niveau de l'aéroport. Quand on sort de son avion, par exemple, plutôt que de prendre un taxi ou de prendre le RER et de se prendre tous les bouchons, eh ben, on prend son petit taxi volant et on va pouvoir atterrir en centre-ville. Alors, à Paris, par exemple, l'un des premiers points d'accueil, des premiers vertiports, ce sera une barge sur la Seine, au niveau du pont d'Austerlitz, pour ceux qui voient. Voilà, donc il y aura une barge installée.
Pas,
c'est pas très facile. Bah, écoutez, on va leur écrire, la société qui s'appelle Volocopter, peut-être qu'ils vont en installer une plus près de chez vous. Non, mais vous imaginez, ça veut dire que d'ici 2024, on va commencer à voir arriver ces appareils sur
le pont. Et au niveau des tarifs?
Ouais, c'est ça.
Alors, des tarifs. La promesse de cette start-up, alors, on verra ce qu'il en est en réalité. Ils travaillent avec Aéroport de Paris, avec la RATP. Nous disent que ça ne coûtera pas plus cher qu'un trajet en VTC aujourd'hui. Moi, ça me paraît assez ambitieux. On verra ce qu'il en est, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce n'est pas juste un projet de savant fou dans leur garage. C'est-à-dire que là, c'est une expérimentation qui est menée à Paris et c'est une première en Europe, il faut le noter. Mais il y en a un petit peu partout dans le monde également. Il y en a en Chine, il y en a au Japon, il y en a en Espagne. Il y a plein de startups qui travaillent sur ce sujet-là. Et avec l'idée derrière, c'est pour ça que je parlais du Salon des maires de France, parce que l'idée, c'est de réorganiser un petit peu la façon dont on exploite la ville aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la route qui est exploitée. Ouais. Et d'ailleurs, elle est souvent assez congestionnée.
Trop exploitée.
On a en souterrain les métros. Mais on sous-exploite d'une certaine manière les voies aériennes qu'on pourrait probablement beaucoup plus utiliser. Sachant qu'après, après, ça dépend s'il y a aussi une question d'acceptation de la population. Est-ce qu'on a envie d'avoir des embouteillages aériens au-dessus de sa tête? Ça, ça va être une vraie question.
Mais c'est même pas des embouteillages, c'est le fait que moi, je suis dans mon taxi. Moi, j'aurais trop peur de la collision, de merde, il a mal rechargé, tu vois.
La batterie, c'est pas possible.
C'est pas possible.
Normalement. Alors, est-ce que vous vous posez ces questions quand vous montez dans un avion?
Il y a un avion, c'est pas électrique.
Il y a un avion aussi.
Enfin,
en même
temps, s'il n'y a plus d'essence dans l'avion,
s'il n'y a plus de kérosène, il n'y a plus de kérosène.
Oui, mais attends, excuse-moi, mais le pilote, au départ, il fait un check-up de l'avion avant que tu partes. Il regarde le kérosène et tout. Là, il n'y a pas de pilote. Tu crois que je vais faire mon check-up du taxi?
Alors, il y aura sûrement une personne qui supervisera les appareils au sol, de toute façon.
Quand on voit l'état des Vélib à Paris, pardon. C'est la même chose sur mes petits volants.
On ne sait déjà pas gérer les trottinettes, donc je ne vois pas comment on va gérer.
Ça va avoir des emballages McDo dans le
pilote. Non, la vraie question, c'est la question de la régulation, en fait. Ce qui est toujours compliqué, c'est que la technologie va toujours beaucoup plus vite que la loi, et donc il va falloir penser à
des couloirs
aériens spécifiques. Mais vous savez, au-delà du transport de passagers, ça va être intéressant parce qu'on peut imaginer plein de cas d'usage. On peut par exemple imaginer du transport de blessés vers un hôpital, d'organes en urgence d'un hôpital à un autre. Il y a plein de choses auxquelles on peut penser au-delà du simple fait d'améliorer notre confort dans la vie quotidienne. Voilà, donc Volocopter 2024, on verra s'ils tiennent leur engagement. Mais c'est quand même demain, quoi.
Et vous y croyez? À 2024, on va avoir des gens voler au-dessus
de notre tête. Alors 2024, je le sais de sources sûres qui travaillent très sérieusement sur le sujet, puisque l'un des responsable du projet, c'était mon petit frère jusqu'à il y a peu. Donc voilà.
Mais bravo.
J'en profite pour le saluer.
C'est clair.
Ingénieur aéronautique. Voilà. Et voilà. Comment ça s'appelle? Il s'appelle Laurent. Voilà. Oui, je sais. Mais bon, c'est pour ça que je le dis. Voilà, je te dis mon conflit.
Et vos parents font aussi quelque chose dont on a parlé dans l'émission.
Ils fabriquent des hélices.
Anthony Morel, tiens, question pour vous. Si vous pouviez habiter dans une rue qui porte le nom d'un artiste, ce serait quoi?
Un artiste vivant?
N'importe, on s'en fout.
Mick Jagger.
La rue Mick Jagger. Vous savez que si vous habitez dans un certain village dont on va parler dans un instant dans le Puy-de-Dôme, eh bien vous pourriez habiter cette rue parce que ce village a décidé de rebaptiser toutes les rues de la commune avec
48
des noms de stars. Est-ce que c'est ridicule ou est-ce que c'est génial? On vous pose la question dans un instant dans Estelle Midi. À tout de suite.